Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 12h à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour, c'est l'heure du grand journal au micro Lievin Bouinga. À la une de l'actualité, encore une tragédie sur les eaux de l'ex-province de Bandundu. Une vingtaine de morts, plusieurs disparus et 30 rescapés après le naufrage dimanche d'une embarcation sur la rivière Kwa, près de Mouchi. Cause de cet accident, la surcharge selon les autorités locales. La chefferie de Kaziba dans le territoire de Walungu, théâtre de violents combats depuis hier jusqu'à ce mardi matin. Ces affrontements opposent les forces armées de la RDC, appuyées par les Wazalendo et le Burundi, aux rebelles du M23 alliés au Rwanda. Nous en parlons dans ce journal. Vous le savez, certains chefs de groupes armés locaux ont annoncé ce week-end leur défection dans la coalition des volontaires pour la défense de la patrie en vue de se rallier à la rébellion du M23 AFC dans le Nord Kivu. Pour comprendre cette réalité, notre invité est un membre du groupe de recherche baromètre sécuritaire et Henri Pacifique Mayala va analyser cette situation pour nous. Mais d'abord, cet autre drame que nous venons d'apprendre, 3 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan encore provisoire d'un braquage qui vient de se dérouler ce mardi dans la commune de Selemba ou ici à Kinshasa. Les bandits ont ciblé un shop TNT spécialisé en transfert d'argent. D'après le bourgmestre de cette commune qui livre l'information à Radio Kapi, le drame s'est déroulé à 9h25. 9 bandits à main armée opérant sur des motos ont emporté une somme d'argent dont le montant n'est pas encore connu. Les 3 victimes sont des passagers et le conducteur d'une moto qui se dirigeait vers Lupen. Mathias Ouomoumou a été joint au téléphone par Babel Pongo et Plotin Yambenga.
Il y a sur l'avenue 24 novembre, croisement Panzo, un shop TNT de transfert de monnaie qui a été attaqué. Et juste sur l'avenue 24 novembre, du côté marché Selemba, appelé communément Selemba. Mais c'est du côté Bumbu. Quand il sortait, quand il commençait à tirer ses menants, il tirait du côté Selemba. C'est pourquoi les gens qui étaient sur la moto ont reçu des balles, ils ont tombé sur place et ils ont décédé sur place. L'autre, on l'a cheminé vers l'hôpital du Kakukolo et il a rendu l'arme. Mais jusqu'à présent, les identités n'est pas encore révélées parce qu'il n'y a pas de pièces d'identité. On a essayé, après avoir fait le rapport auprès des autorités, auprès du ministre de l'Intérieur et le gouverneur, avec l'auditeur militaire de garnison de Gitassangalem, nous attendons maintenant les instructions pour que nous puissions lever le corps. Mais on a quand même commencé à appeler ou à publier certaines photos pour que leurs familles peuvent les reconnaître facilement. En attendant que le ministère public puisse donner les orientations pour la levée du corps.
Et puis la série noire continue sur les eaux de l'ex-province de Bandundu. Une vingtaine de morts, plusieurs disparus et 30 rescapés. C'est le bilan du naufrage d'une embarcation survenue dimanche sur la rivière Kwa, près de Mouchi, dans la province de Bandundu. Cause de cet accident, la surcharge selon des sources proches de la navigation. Mais le porte-parole du gouvernement provincial, Alexis Mputu, lui s'insurge contre la navigation nocturne effectuée par plusieurs bateaux et pourtant interdite. Le point avec Irène Mbomaluzolo.
D'après les sources concordantes, la dite baleinière a quitté le port de Mouchi à 23h de dimanche à destination du village Ngambomi et a chaviré sur la rivière Kwa à près de 12 km de cette cité, chef-lieu du territoire portant le même nom. Cette embarcation en bois transportait à son bord notamment des joueurs de cette localité après un match de football à Mouchi. Le bilan provisoire fait état de 25 morts et 30 rescapés selon les porte-parole du gouvernement provincial du Maïndomi. Pour Alexis Mputu, qui affirme que la baleinière était déséquilibrée, la navigation nocturne reste la principale cause de ce naufrage. La survenue de cet accident est aussi confirmée par le commissariat fluvial de Mouchi, qui ne livre aucun détail avant d'arriver sur terrain. Même chose du côté de l'administration territoriale, qui dit avoir des difficultés pour se rendre au lieu du drame. Renacle Kwatiba est l'administrateur du territoire de Mouchi.
Il y a eu beaucoup de morts, mais nous ne connaissons pas le nombre exact. On devait se rendre sur les lieux. Malheureusement, nous manquons de moyens pour payer les carburants qu'on sort, mais réellement, il y a eu des morts là.
Pour la population du Maïndombe, les naufrages ne sont plus un fait nouveau car ils surviennent couramment dans cette province. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre actualité, la chefferie de Kaziba dans le territoire de Walungu, théâtre de violents combats depuis hier jusqu'à ce mardi matin. Les affrontements opposent les forces armées de la RDC appuyées par les Wazalendo et le Burundi aux rebelles du M23 alliés au Rwanda. Pour l'instant, des sources croisées se contredisent sur qui contrôle actuellement le chef-lieu de la chefferie de Kaziba à 50 km au sud-ouest de Bukavu dans le sud Kivu. Rachel Kiesse nous en dit plus.
Des tirs aux armes lourdes et légères assourdissent la population de Kaziba depuis la journée d'hier. Des échanges, des tirs entre les belligérants ont duré toute la nuit et se sont poursuivis tôt ce matin. Les témoins rapportent que les troupes burundaises qui se battent aux côtés des FARDC et des Wazalendo sont déterminées autant que les rebelles avec les militaires de l'armée rwandaise. Ces confrontations directes des deux armées étrangères sur le sol congolais consolident la régionalisation des conflits. Kaziba constitue une zone stratégique pour tous les belligérants. Le contrôle de la chefferie de Kaziba ouvrirait la voie au M23 de faire jonction avec un autre mouvement rebelle, Twirwaneho Android. Le Burundi redoute qu'une telle coalition renforcerait aussi les rebelles burundais en coalition avec le Twirwaneho dans les hauts plateaux du territoire de Fizi. Les FARDC partagent les mêmes inquiétudes que le Burundi étant donné que Minembwe ouvre l'accès à la province du Tanganyika et Uvira pourrait être pilonné en aval. La capitale du Burundi, Bujumbura, serait déstabilisée une fois la ville d'Uvira, qui est en face, serait sous contrôle de rebelles.
Sachez encore que toujours au sud Kivu, les forces armées de la RDC ont procédé lundi au bombardement de l'aérodrome de Minembwe dans le haut plateau de Fizi et Uvira, qui n'est plus opérationnel. Selon le vice-gouverneur, cette opération a permis de détruire tous les aéronefs en provenance de Bukavu qui transportaient les rebelles du M23, mais ravitaillaient aussi en munitions et équipements militaires les groupes armés locaux de Twirwaneho et Red Tabara, qui soutiennent la rébellion du M23 et son allié le Rwanda. Jean-Jacques Elakano ajoute qu'une dizaine de rebelles sont neutralisés. Le vice-gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, a été joint par Martial Kizabiamungu.
Actuellement de la part du Rwanda, il veut à tout prix passer par Kaziba pour faire jonction avec ceux qui sont à Minembwe. Et les renforts sont acheminés à l'aérodrome de Minembwe. L'objectif était de faire jonction et les deux territoires. Là, il y a des bombardements intenses. C'est l'aérodrome de Minembwe. Cet aérodrome était déjà entre les mains de quelques supplétifs du Rwanda, comme Bukavu, leurs alliés de Red Tabara, et voulaient utiliser l'aérodrome pour perturber la tranquillité et la sécurité dans le territoire de Virai. Présent, le haut commandement militaire a pu saisir la barre de Bobon pour neutraliser ces rotations de quelques aéronefs qui faisaient Bukavu jusqu'à l'aérodrome de Minembwe.
En rapport toujours avec ces combats, l'ancien sénateur Moïse Nyarugabo déplore les bombardements qui, d'après lui, ont visé non seulement les villages de Minembwe, mais aussi la piste de l'aéroport de Minembwe, un aéroport pourtant utilisé seulement pour des raisons commerciales et humanitaires dans ce coin très enclavé et où toutes les autres voies sont bloquées par les FARDC, les groupes armés, écrit l'ancien sénateur sur son compte X. Guerre de l'Est de la RDC toujours, les forces armées de la République démocratique du Congo présentent deux sujets tanzaniens capturés à Beni, résultat des opérations de traque contre les groupes armés opérant dans la région. Il s'agit précisément des rebelles qui se sont rendus et d'autres capturés lors de ces opérations militaires dans le front nord, c'est-à-dire dans la région de Beni et Lubero. Reportage Guylaine Kassassia.
Lors de cette présentation, l'armée a montré deux individus tanzaniens arrêtés alors qu'ils étaient en route vers une base de rebelles ZADF se trouvant à Mambasa. Ils avaient été interceptés à la barrière de Pasisi, transportés à moto par un collaborateur des ZADF. Pasisi se trouve à la sortie sud-ouest de la ville de Beni. Les FARDC ont également présenté un soldat RDF au sud de Lubero lors des affrontements contre les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda et deux volontaires pour la défense de la patrie VDP du groupe Mai Mai, Force de Patriotes pour la paix barre armée du peuple FPPAP du général autoproclamé Kabidon. Ces arrestations interviennent pendant que les FARDC poursuivent les opérations des traques contre les groupes armés opérant dans la région de Beni, Butembo et Lubero, notamment les rebelles des ZADF et du M23 soutenus par le Rwanda. Le colonel Makazu Kai, porte-parole des opérations Front Nord, a rassuré que toutes ces personnes qui se sont rendues ou capturées seront traitées conformément au principe de droit international humanitaire. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Notez à présent ces regrets d'un député national élu de Kisangani face toujours à la guerre. La ville de Kisangani n'a pas encore fini de panser ses plaies contractées lors de différentes guerres du Rwanda dans cette ville. Les stigmates de ces guerres sont encore visibles dans cette entité. Voilà qu'une nouvelle guerre sévit à l'est du pays alors que l'espoir commençait déjà à naître dans la capitale de la Tshopo, déplore Patrick Matata Makalamba. C'était hier lundi au cours d'un point de presse. Pour cela, il dit non à la guerre d'agression au pays à Kisangani au nom de la population locale. En plus, il appelle la population à la vigilance et à la résistance. Je vous propose un extrait de ce propos choisi par Jacques Mukonkole.
Toute l'histoire de la souffrance de la RDC est portée par la ville de Kisangani, est portée par la province de la Tshopo, est portée par la Grande Orientale. À tel point qu'à un moment donné, on nous a même appelé ville martyre. Nous voulons aujourd'hui être appelés ville d'espoir pour ne pas porter tous ces affres de la guerre que nous avons connues par les passés. Nous n'avons pas encore fini de panser nos plaies par rapport aux agressions antérieures. Guerre d'un jour, guerre de trois jours, guerre de six jours, ici chez nous. À la faveur de l'intervention du chef d'élite, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons le Frivao, nous avons le Fonarev, qui ont commencé l'identification, l'indemnisation des victimes. On n'a même pas encore fini ce processus, et voilà, de nouveau, une autre guerre qui va venir, avec une cohorte de cauchemars, des violations de droits de l'homme, ici à Kisangani. C'est ainsi qu'il était temps d'appeler la population à la vigilance, à la résistance, contre cette nouvelle agression. Parce qu'en effet, ça fait 30 ans que le Rwanda sème la calamité la plus odieuse en République démocratique du Congo. Tous les efforts fournis par différents gouvernements pour qu'il y ait la paix entre le Congo et le Rwanda ont été sabotés par le Rwanda. Et trop c'est trop.
Diplomatie parlementaire à présent, Israël se dit prêt à mettre à profit son expertise pour mettre en valeur l'immense potentiel agricole de la RDC, capable de nourrir plus de 2 milliards de populations mondiales. C'est ce qui ressort des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, en séjour dans la ville sainte de Jérusalem, avec Hinanit Koltai, président de l'Agence israélienne de développement. Cette agence dépendante du ministère israélien des Affaires étrangères se dit prête, sur proposition de Vital Kamerhe, à s'investir pour la paix en RDC en valorisant les terres arables congolaises par une agriculture capable de nourrir plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Michel Kifindangoy.
Le Machav, étant l'organisation responsable des programmes de développement et de coopération internationale d'Israël à travers le monde, a saisi de la présence de Vital Kamerhe pour exhiber à la délégation congolaise l'expertise israélienne dans plusieurs domaines susceptibles de booster la RDC vers leur but du développement. L'accent est mis sur l'agriculture qui renferme 50% des exportations israéliennes. Convaincu par l'exposé de la directrice générale de Machav, le président de l'Assemblée nationale sollicite une coopération bilatérale entre les deux pays. Vital Kamerhe.
Israël est parmi les leaders au niveau du monde, avec le potentiel que nous possédons en République démocratique du Congo, en termes de terres et ressources humaines, mais qu'il faut recycler. Nous pensons que si nous faisons une coopération. Ensemble, nous pouvons sauver le monde. Les terres du Congo peuvent produire pour 2 milliards d'individus.
Vital Kamerhe a par ailleurs visité le centre Pérez pour la paix de Tel Aviv. Impressionné par les inventions des scientifiques israéliens œuvrant dans plusieurs grandes sociétés internationales de haute technologie, le speaker de l'Assemblée nationale plaide pour que le centre Pérez œuvre aussi pour la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs.
Retour au pays, Safrimex menace de fermer ses portes en Boujimaï et pour cause des difficultés financières liées à l'insécurité qui prévaut dans l'est du pays. Mais fort heureusement, le gouverneur du Kasaï oriental, informé de cette situation, s'y oppose et s'investit pour trouver une solution à la situation financière qui ronge cette entreprise. Reportage Esther Ndalafina.
La décision de fermeture a été annoncée le week-end dernier au gouverneur de province par le représentant de Safrimex au Kasaï oriental. Les difficultés financières suite à la situation sécuritaire de l'Est sont l'une des causes avancées pour justifier cette décision. Le gouverneur de province s'est dit consterné par cette décision. Jean-Paul Mbouéboué s'est investi pour que ces difficultés financières soient décantées au niveau du ministère des Finances. Trésor Kachala, directeur provincial de l'OVD, affirme que les démarches sont sur la bonne voie, signalant que Safrimex a modernisé et éclairé près de 40 km des routes urbaines en Bougimaï. Plus de 500 jeunes creuseurs de diamants sont depuis quelques mois utilisés comme journaliers aux travaux de modernisation des routes. Cette décision tombe pendant que Safrimex travaille encore sur des grands chantiers dont notamment la modernisation de la route qui relie les ronds-points Petrombo à Tchombela en Bougimaï, la route qui mène vers la régie des eaux à Lukelenge et sur la RN1 axe Mbujimaï-Kananga au Kasaï central. L'abandon de ces travaux pourrait détériorer les tissus écologiques de la ville. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Et puis retour sur le dossier circulation alternée à Kinshasa avec cette nouveauté. Le gouvernement provincial, à travers le ministère des Transports, autorise à nouveau la circulation alternée sur, notez bien, deux grandes artères de la ville seulement. Il s'agit des avenues du tourisme et Nguma dans la commune d'Engaliema. Le ministre provincial des Transports justifie cette décision par le fait qu'elle réduit les embouteillages dans la partie ouest de la capitale. Cependant, cette mesure n'est pas saluée par tous. Les détails dans ce reportage signé Plotin Yambenga.
Les avis sont partagés sur la reprise de la circulation en sens unique sur ces deux artères. À Kintambo Magasin, ces conducteurs des taxibus estiment que l'application de cette mesure est à la base de l'embouteillage enregistré ce lundi matin dans la partie ouest de la ville et aussi de l'enfile des passagers qui ont attendu sans succès des véhicules pendant plusieurs heures.
J'estime que cette décision n'est pas bonne puisqu'il n'y a pas de suivi pour ça. Les gens qui sont du côté de Nguma éprouvent d'énormes difficultés. À cet instant, les personnes qui désirent arriver à la RN1 sont obligées de contourner des ici suite à la circulation alternée. Pourtant, à DGC, il y a aussi circulation alternée. Ce matin, il n'y a plus d'embouteillage qu'avant.
Pour d'autres, elle est salvatrice de l'instant où la circulation devient fluide, notamment du côté du Palais des Marbres. Ces taximens moto explique.
Je me réjouis de cette décision car elle nous aide du côté Nguma, voire Compagnie.
Le même avis est partagé par cet habitant d'Engaliema rencontré à Kintambo Magasin.
La décision que le gouvernement a prise pour la sas internée, c'est bon. Mais j'ai constaté qu'il y a déficit de la police.
Cette mesure a été suspendue il y a 3 semaines par les autorités provinciales après une évaluation plus de 2 mois après sa mise en œuvre.
Actualité internationale.
Hors de nos frontières, au Kenya précisément, une manifestation contre un don excessif du président Ruto à une église a été durement réprimée, bilan au moins 10 personnes blessées et 38 autres arrêtées. Après un appel lancé sur les réseaux sociaux, quelques centaines de jeunes ont tenté d'entrer dans l'église du ministère de Jésus le Vainqueur pour protester contre une donation importante qu'elle a reçue du président William Ruto.
L'invité.
Au Nord Kivu, certains chefs de groupes armés locaux ont annoncé le week-end leur défection dans la coalition des VDP, volontaires pour la défense de la patrie, pour se rallier à la rébellion du M23 AFC. Notre invité Henri Pacifique Mayala, membre du groupe de recherche baromètre sécuritaire du Nord Kivu, qui est partenaire des Bouteli, analyse pour nous cette situation. Il s'entretient ici avec Sifa Maguru.
Monsieur Henri Pacifique Mayala, bonjour.
Bonjour, Madame Sifa.
Votre organisation Ebouteli travaille sur la dynamique sécuritaire, notamment la question des groupes armés à l'est de la RDC. Est-ce que vous confirmez les déclarations de certains chefs de guerre ou des milices locales du Nord Kivu, notamment le général autoproclamé Kabidon et son collègue Mapenzi, qui ont annoncé leur défection dans la coalition VDP pour se rallier au M23?
Oui, nous avons suivi ces déclarations qui ont fait état d'allégeance à la rébellion M23 AFC par les groupes armés FP de Mapenzi alliés avec les généraux autoproclamés Kabido, comme vous venez de le dire.
Comment vous analysez ces changements d'idéologie alors que hier, tous les groupes armés locaux étaient acquis pour combattre l'agression du Rwanda contre la RDC à travers le M23? Pensez-vous qu'il y a des motifs, des déceptions ou des frustrations aujourd'hui au sein des Wazalendo?
J'aimerais citer habitués à la lecture dans les temps, cette défection, s'il faut la qualifier de cette façon-là, pourquoi seulement aujourd'hui, alors que le M23, d'une certaine façon, a vraiment progressé, dépassé de loin ce qui serait supposé être le bastion de ces deux généraux. D'une part, je dirais que dès le début, il y a eu une certaine frustration, en tout cas de la part de Mapenzi, qui, d'une certaine façon, est dissident dans des groupes, le NDCR, qui a toujours été perçu comme étant prépondérant sur le terrain, ce qui se justifie aussi parce que lorsque toute cette mouvance Oisalendo commence, le gros des combats sont concentrés dans les zones qui sont à forte influence sous le NDC de Guidon et la PCLS de Jean-Marie. D'une certaine façon, on dirait que Mapenzi se serait senti écarté par le fait qu'il n'était pas consulté au premier rang par le colonel qui, à l'époque, constituait la coordination des Oisalendo dans le territoire de Massissi et le nord-est de Walikale. Par contre, pour Kabido, ça reste problématique parce que depuis le début des offensives, on n'a pas vraiment senti son affiliation à la mouvance Oisalendo. C'est un peu comme s'il y a eu une sorte d'accord tacite de non-agression entre le M23 et son groupe. Parce que tout le moment où le M23 est passé dans l'espace qu'il était supposé contrôler ou vraiment arrêter la progression du M23, il ne s'est pas prononcé, il ne s'est pas battu. Même au moment où le M23 prend la ville de Goma et met en place son administration et que certains de ses collaborateurs sont nommés au sein du M23. Il n'y a jamais eu de déclaration de sa part. Pour moi, je pense que il n'y a pas d'idéologie. C'est un acteur de la violence qui voit une opportunité et se positionne.
Actuellement, selon vous, cette alliance de certains Oisalendo et le M23 peut aller jusqu'où? Ou est-ce que cela peut avoir des conséquences sur les déroulements des opérations, des affrontements ces derniers temps en Nord Kivu, notamment dans les Massissi et Walikale, où ils continuent à se battre?
Ils ont eu un rôle à jouer. Nous avons décrié la façon qu'a été constituée cette réserve de la défense armée, partant de motifs de mobilisation jusqu'à la supposée coordination qui devait être tenue par feu le général Chirimwami, l'absence de ses adjoints, le général Padiri et Mayanga, qui d'une certaine façon aussi étaient assez ancrés dans cette dynamique de groupes armés, semble ne pas donner une lueur à pouvoir lire avec une certaine certitude sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Mais pour moi, je pense qu'il y aura certainement un impact dans le sens où si les allégeances continuent à aller dans le sens à rejoindre le M23, alors que la performance des FRTC de l'autre côté n'est pas assez rassurante. Donc, je pense que cela puisse encore bouleverser davantage la donne sur le terrain.
Merci beaucoup, Henri Pacifique. Que Mayala.
Merci madame.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Martha Sebujangwa et Élisée Tchikota. Adieu Donné Nyangasa et bon après-midi à toutes et à tous.